se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de pommes Pink Lady est à seulement 1,99€.
À ce prix-là, je tombe dans les pommes.
1,99€, c'est un prix qui ne rigole pas.
Et en plus, elles sont origine France.
Comme toutes nos pommes, c'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,99€, le kilo de pommes Pink Lady, origine France, variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170, 201 grammes. Existe en Barket Kids ou 6 fruits. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, c'est aujourd'hui avec Charles Consigny, avec Barbara Lefebvre, avec Étienne Niévic, des grandes gueules que vous retrouvez en podcast si vous voulez faire la session de rattrapage de l'émission des GG, c'est sur l'appli RMC que ça se passe, ou sur notre site internet rmc.fr, et c'est d'ailleurs sur notre site internet que vous pouvez décider, du à vous de choisir.
RMC, les grandes gueules,
à vous de choisir.
Deux sujets de discussion proposés aujourd'hui, la grève chez GRDF qui a privé 1500 foyers de chauffage, ou bien la sanctuarisation des trottoirs pour les piétons. Est-ce que c'est une bonne idée? Eh bien, vous avez choisi de parler de la sanctuarisation des trottoirs.
Vous savez qu'il existe un Conseil national de la sécurité routière. Dans ce pays merveilleux, on a des comités, des conseils. Alors, il a été créé en 2001. On l'avait mis un peu en sommeil pendant des années. Il a été réinstallé en 2012. Il est composé de 67 membres. Ce sont des élus, des représentants de l'État, des associations, des médecins, des entreprises. Et tout ce beau monde, je ne sais pas s'ils sont payés, mais enfin, tout ce beau monde se réunit aujourd'hui en séance plénière pour redire que le trottoir, ça doit être réservé aux piétons et non pas aux trottinettes, aux skateurs ou encore aux cyclistes. Alors, pourtant, la loi déjà interdit la trottinette électrique au trottoir, oui, puisque c'est passible d'ailleurs d'une amende de 135€. Les vélos non plus n'ont pas le droit, sauf si le cycliste est à pied et porte son vélo, mais ils n'ont pas le droit de faire du vélo sur le trottoir. Semble-t-il, ça ne suffit pas parce que ce n'est pas respecté. Et donc aujourd'hui, ils veulent définir légalement le trottoir comme étant une partie de la voie publique réservée à la circulation et à l'usage du piéton. Est-ce que, à votre avis, c'est la bonne solution? Est-ce que ça changera le comportement des gens?
Alors, doit sanctuariser le trottoir, faire une exclusivité pour le piéton? 32-16.
C'est étrange, mais moi j'ai plus l'impression que le problème, c'est y compris des voies pour vélo sur les trottoirs, c'est-à-dire là où les vélos vont vraiment très vite, et c'est pas franco-français, c'est pire en Hollande, hein, où ils sont totalement prioritaires sur les piétons, et où ils vont très vite, et à ce moment-là, c'est vrai que le moindre écart que l'on fait en tant que piéton, on risque vraiment sa vie, hein, si jamais on fait l'erreur de pas regarder où on met le pied, on peut se faire renverser.
Et puis ce qu'on voit pas forcément d'ailleurs, voilà, ils sont pas bien délimités.
C'est très compliqué l'usage de ce couloir réservé aux vélos, où il n'y a pas d'infraction, les vélos ont le droit de le faire. C'est souvent sur le trottoir, on y voit aussi les trottinettes et les skates, etc. C'est souvent sur le trottoir et pas sur la rue. Et je trouve que c'est plus dangereux que vraiment le vélo sur le trottoir de façon anarchique. Je sais que ça existe, mais j'ai pas l'impression que ce que j'ai personnellement, je marche beaucoup dans Paris par exemple, j'ai pas l'impression que j'ai eu des moments de danger avec des vélos anarchiques. Par contre, beaucoup. Avec des vélos qui roulaient sur la voie autorisée aux vélos. Je pense qu'on a.
Il faudrait peut-être les coloriser parce que tu vois, j'avais vu ça à Copenhague où les pistes cyclables étaient une couleur rouge, je ne sais plus, mais qui était vraiment on distingue de la couleur grise du trottoir.
C'est ça.
On n'a pas fait ça par exemple à Paris où souvent c'est gris sur gris.
Gris sur gris.
Et donc peut-être une idée qui coûterait pas trop cher.
Et c'est très dangereux parce que un vélo qui te rentre dedans ou qui rentre sur une personne âgée, il a flingue. Hein.
À Paris, non seulement c'est gris sur gris, mais en plus t'as les plots jaunes immondes.
Oui, c'est vrai.
Complètement écrabouillés en plastique. Moi, je suis désolée, hein, on a un vrai problème avec les trottinettes électriques sur le trottoir. Alors, les vélos, c'est une chose, mais les trottinettes électriques, non. C'est un véritable problème.
Les automobilistes disent qu'ils ont eu un vrai problème avec les trottinettes électriques sur la chaussée,
sûr.
La voie. Donc, en fait, c'est la trottinette électrique est un problème.
La trottinette électrique, elle est faite pour être sur la voie. Bien sûr, pour les voitures, quand on est en voiture, c'est dangereux. Et je me suis retrouvée plus d'une fois dans un sens interdit avec la trottinette électrique qui m'arrive en face. Et c'est pour ma pomme, c'est-à-dire que même si c'est moi qui la tamponne, et même si moi je suis dans mon droit et qu'elle est en tort, le tort c'est pour moi parce que si je tue la personne, c'est foutu. Mais sur les trottoirs, il y a des accidents extrêmement réguliers, des gens qui se retrouvent avec des chevilles fracassées, des piétons, qui se retrouvent avec des chevilles broyées, des personnes âgées renversées, moi je suis désolée, il faut effectivement inscrire non seulement ça dans un code.
La loi ?
Mais il faut.
Oui, mais c'est déjà interdit. Enfin, tu peux prendre la
bien,
BV
c'est
déjà.
Qu'on est, quand on a des flics, excuse-moi, qui viennent te mettre une prune parce que ça fait 5 minutes que tu es en retard pour venir mettre ton étiquette là, sur la voiture pour les stationnements. Par contre, ils verbalisent jamais les trottinettes sur les trottoirs. Et quand toi, tu fais la police, c'est-à-dire que tu dis à des parents, vous pourriez pas dire à votre fils qui est en trottinette électrique de, parce qu'il y a des parents hein, qui se baladent avec les gamins en trottinette électrique. Tu te fais engueuler parce que tu essaies de faire la police sur le trottoir. Donc
alors les plaquettes, tu sais que maintenant une plaque d'immatriculation sur le parcours ouais, arrière, des, ça permettra de les identifier,
ça
donc des verbalisés.
De les taxer.
Non, mais de toute façon, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème sur les trottoirs. Hein. Il faut arrêter de le négliger. Hein.
Je suis pas du tout d'accord. J'emprunte ces trottinettes électriques et ces vélos
régulièrement. Paris,
très régulièrement. Je ne constate aucun problème sur les trottoirs. Excusez-moi, c'est extrêmement rare que des vélo ou des trottinettes électriques soient sur les trottoirs. Et je pense que c'est une nouvelle façon qu'on a trouvée. On est tous tellement névrosés et dépressifs dans ce pays que dès que quelque chose fonctionne, t'as toujours 10 personnes qui se lèvent pour vouloir l'interdire, la réguler et la taxer. Vous connaissez la phrase de Reagan sur le socialisme. Tout ce qui bouge, on le taxe. Ce qui bouge plus, ce qui bouge plus, on le subventionne. Ce qui bouge encore, on le réglemente. C'est ce qu'on fait sur ce système. Moi, je trouve que ça marche très bien, ces trottinettes électriques, ces vélos électriques. Je pense que ces plaques d'immatriculation vont avoir simplement pour effet de taxer les gens, puisqu'on va par le système de la vidéosurveillance voir qui grille un feu, qui ceci, cela, et donc on va en profiter pour leur prendre de l'argent. Et donc on va l'initiative privée avait créé quelque chose qui fonctionnait bien, la machine publique vient entraver cette chose et vient rendre
Charles,
et vient compliquer
pas,
la
Charles,
vie des gens.
Je suis d'accord, mais tu ne peux pas, à partir du moment où on utilise tous le code de la route quand on est automobiliste, on est un petit peu
obligé. Bah non, justement, ça
même,
change.
Attends, tu peux même te faire taxer quand tu traverses en dehors des clous. Hein. Tu sais qu'un
oui, mais on n'a pas tous une flaque d'immatriculation sur la tête.
Mais tu peux
les
pas.
Les cyclistes en ont pas.
Tu peux pas ne pas considérer que ces véhicules trottinette ou vélo ne peuvent faire n'importe quoi. On est obligé de réguler. C'est peut-être très dommage, mais on est obligé de le réguler parce
mais
que
je
sinon,
pense pas.
C'est infernal.
Mais non, je ne pense pas. C'est là qu'on n'est pas d'accord.
Si.
C'est que je pense qu'on est malade de nos appétits de régulation.
Mais alors, régulons rien. Et bah, laissons les bagnoles rouler comme
elles
le veulent.
Mais tu sais que par exemple, il y a des expérimentations de suppression des feux, oui, et on se rend compte qu'en réalité, quand on ne met pas de feu, ça fonctionne
attention.
Mieux que ouais. quand on met un feu,
c'est
parce
vrai.
Que les gens font attention au croisement.
C'est vrai.
Moi, je dis supprimons les
attention
feux
aux piétons.
Et arrêtons de faire chier les gens. Arrêtons de les emmerder.
La trottinette électrique est devenue l'ennemi numéro un.
Mais oui,
je sais pas pourquoi.
Alors que ça fonctionne.
Il y a un bashing contre les gens qui utilisent. Alors que je regarde les chiffres.
C'est pas le bashing.
Il y a 15 000 trottinettes. Donc ça répond à un besoin. Et ça répond à un besoin de gens qui effectivement n'ont plus leur voiture à Paris. Le métro est bondé. Ils préfèrent être dehors parce que c'est quand même plus agréable souvent d'être dehors que dans un métro fermé, faut le dire, il y a que et donc ça répond à un besoin. En plus maintenant il y a les pistes cyclables.
Mais d'ailleurs je conteste même ce truc débile qui a été mis en place où on oblige les gens à stationner leur trottinette dans des petits parkings prévus à cet effet. Et vous êtes là aussi taxé si vous ne les garez pas à cet endroit-là, etc. Je considère que c'est de la névrose administrative. Avant, on garait par exemple son vélo à peu près partout et on n'était pas verbalisé parce qu'on avait laissé son vélo accroché à un poteau.
On a même connu des villes où on payait pas le stationnement.
En bas de l'endroit où on se rendait. Donc tout ça, c'est de la névrose administrative et de la passion fiscale. C'est Madame Hidalgo.
Tu vois qu'il y a une pression,
notamment,
une pression populaire.
Qui veut financer toutes ces conneries.
C'est pas que politique. Tu l'organises un peu.
Mais elle
on
est
a fait la trottinette sincèrement.
Il y a une pression dans l'autre sens.
Moi, je suis utilisateur de trottinette de temps en temps. Je ne serai pas utilisateur. Je vivrai pas parce que je pense qu'aussi, les gens qui sont très contre, c'est les gens qui n'en croisent jamais,
qui sont
dans les villages, etc. Mais j'écouterai les médias, les chaînes info, etc. J'ai l'impression que la trottinette électrique, c'est une arme et qu'on tue des gens tous les jours. Enfin, c'est pas ce que je vis à Paris. c'est compliqué dans les villes, la cohabitation, c'est vrai, parce qu'en plus, c'est des petites routes et qu'on a multiplié les, maintenant, il y a le vélo, il y en a beaucoup plus, la voiture, les livreurs.
Et la voiture,
le bus. Pardon, mais moi, les bus qui font 10 mètres de long, je trouve ça ridicule dans une ville comme Paris. Les bus devraient être plus petits, plus maniables. Il y a plein de choses qu'on pourrait revoir, mais on s'en prend uniquement à la trottinette.
Oui, c'est quand même étonnant.
La question d'assigner à chaque mode de transport une voie de circulation et des limitations de vitesse, je ne vois pas en quoi c'est liberticide. Je ne vois pas en quoi c'est liberticide. dans quelle mesure ça retire aux autres, aux piétons, aux automobilistes, la liberté de circuler. Aujourd'hui, il y a un nouveau mode.
Par exemple, la limitation de vitesse, Barbara.
Non, mais il y a un nouveau mode de transport qui est la trottinette électrique.
On va baisser la vitesse maximale à laquelle elle peut aller. Pour l'instant, c'est 20 et ils vont la baisser.
Ouais, la trottinette électrique, moi, j'en ai vu plus d'une fois passer à toute berzingue. Excuse-moi, c'est hyper dangereux quand t'es avec un enfant sur le trottoir et que justement, tu as cette voie. Tu as cette voie de trottinette électrique.
C'est plus dangereux qu'une voiture. Et qu'un vélo électrique.
C'est moins dangereux qu'une voiture. Au nombre d'accidents, au pourcentage, c'est beaucoup moins dangereux.
Quand tu marches sur le trottoir, que entre le trottoir et la voie où il y a les voitures, tu as cette voie pour les trottinettes et les vélos. D'accord? Que le vélo, il va des fois moins vite que la trottinette. La trottinette passe à toute vitesse et que toi, tu marches sur ton trottoir et que tu es écroulé en permanence.
Ça s'appelle la vie, tu vois.
La question, c'est pas la question, c'est la vie. La question, c'est faire en sorte que chacun puisse circuler
dans un espace qui est
sécurisé
avec des régulations
pour lui, c'est tout.
Oui, mais stupides telles qu'elles sont aujourd'hui envisagées qu'on va améliorer
le
quoi
problème
que ce
c'est
soit.
Qu'avant on veut plus de véhicules dans un espace qui est pas plus grand.
On va arrêter avec cette suradministration.
Il y aurait une solution. Je trouve que le problème c'est quand même que on est parti pour qu'il y ait moins de bagnoles, plus de transports en commun et plus de moyens non polluants de déplacement. Et en même temps, il y a toujours pratiquement le même nombre de bagnoles. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, j'étais en Allemagne. C'est vrai qu'il n'y a pas de voiture. C'est vrai qu'il n'y a pas de voiture. À Francfort, il n'y a pratiquement pas de voiture. Il y a uniquement sur les grands axes. Ailleurs, il n'y a pas de voiture. Et donc, il y a des vélos et des patinettes. Ça ne pose aucun problème.
Le choix de Madame Hidalgo n'a jamais été au bout du choix.
Comment tu veux qu'elle y aille avec les gens qui gueulent?
Je peux pas.
La voiture est reine en France.
C'est vrai qu'elle écoute beaucoup ses opposants, c'est connu.
Il faut choisir. Est-ce qu'on veut un centre de Paris sans voiture?
Bien sûr.
Ce choix-là, il peut être fait. Il y a d'autres capitales qui l'ont fait. Mais qu'elle le fasse franchement. Là, on est toujours dans un entre-deux.
Alors.
La question n'est pas là. Je pense pas qu'il faille un centre sans voiture. Je suis désolé.
Je t'ai pas dit ça.
Paris va devenir une ville pour touristes.
Je ne t'ai pas dit qu'il faut le faire. Je te dis.
Elle a fait des trucs abominables. Je suis désolé. T'as des quartiers. Par exemple, regarde.
Barbara,
à côté de chez moi, il y a une belle rue qui s'appelle la rue du Temple, dans le Marais. Elle l'a fermée aux voitures. Parce que elle a mis au début de la rue une espèce de truc immonde, une espèce de place avec des barrières. Bon, bref. Ça ne ressemble plus à rien, je suis désolé, ça n'est plus une rue. C'est un espèce de village pour mettre des Airbnb et des Américains dans les Airbnb
qui vont ensuite
surpayer des fringues de merde telles qu'elles sont vendues dans ce quartier. Eh ben, je ne veux pas de ça pour la ville de Paris.
Tu peux juste me laisser terminer sans me couper parce que moi, j'arrive pas à hausser le ton cette fois. Mais la question, je ne t'ai pas dit, elle doit le faire. Je dis simplement que quand on mène une politique, on tranche, on choisit.
Eh ben, je réponds.
Soit il y a des bagnoles, soit il n'y a pas de bagnoles.
Non, mais on peut faire
s'il
les deux.
S'il y a des bagnoles, non,
pas
non. Et en même temps, dans le centre-ville.
Les exemples que vous citez, ça devient des musées, c'est plus des villes.
Non, je ne t'ai pas dit qu'il faut choisir ça.
Mais
ça, c'est des musées.
Non, mais les villes pour les touristes. Francfort, c'est pas un musée.
Alors attends, parce qu'on a Bruno qui nous appelle de.
C'est la troisième place financière d'Europe.
12e arrondissement de Paris. Bonjour Bruno.
Rien n'est comparable.
Bonjour Bruno. Est-ce qu'il faut donner l'exclusivité des trottoirs aux piétons? Parce que c'est quand même ça, le fond de la question.
C'est pas fait pour jouer au ballon ni rouler avec une voiture, on est bien d'accord. Est-ce qu'on va se balader sur les autoroutes à pied?
Non.
Les plus téméraires le font.
Il y a des fadas, ils sont pas tous enfermés, ça on le sait, mais bon, faut arrêter. Moi j'habite juste à côté de la gare de Lyon, entre gare de Lyon et le marché d'Aligre. Je regarde l'avenue de Ménil, une fois je me suis fait bousculer pour un peu m'écraser le chien avec sa trottinette électrique. Mais il n'y a pas que ça, il y a les scooters, les motos, il y a des endroits où vous pouvez même plus passer. Moi j'ai même une auto-école à côté de chez moi, accrochez-vous bien. Ils garent leur moto sur le trottoir, si bien que s'il y avait une poussette qui voulait passer, une dame avec sa poussette, elle pouvait pas. Ils se garent sur les bateaux et encore plus fort, ils prennent le sens interdit le matin quand ils arrivent à 7h. Bon, c'est la débande à tout le monde. Tout le monde fait comme il veut, c'est la jungle. Et moi, je trouve pas ça d'accord.
Charles, il vous dit que c'est pas comme ça, lui.
Comment?
Charles vous dit que c'est pas comme
ça,
que c'est pas vrai, c'est pas la jungle.
Oui, moi je pense que ça n'est pas comme ça. Je constate, je réfute ce sentiment.
Ah bon, je vous invite à aller place de la Bastille.
Et j'y vais.
Place de la Bastille, là, au pied de la colonne.
Et vous avez vu les aménagements abominables qui ont été faits?
Non, attendez, faut arrêter.
La Bastille,
les
c'est plus une place, mais c'est abominable ce qui a été fait.
Attention.
Il y a de plus en plus, il y a de plus en plus de, comment, de pistes cyclables.
C'est
y
une ZAD, la Bastille.
Le Drurolin qui sont en train d'être aménagés. Mais moi, je vois de plus en plus sur le trottoir. Moi, j'ai chopé la maire du 12e arrondissement à me faire, on va sévir. Moi, je vois jamais de flics. Jamais. Ah, pour mettre des PV pour les terrasses parce que ils ont dépassé d'un centimètre, pour mettre des PV parce que comme le disait la dame tout à l'heure, parce qu'ils ont dépassé de 2 minutes le stationnement, ah là on les trouve. Là il n'y a pas de problème. Mais par contre ils courent pas après pour les arrêter.
Merci
ça,
Bruno.
Normal.
Merci d'avoir été avec nous, Bruno, mon cher Bruno. Passez une bonne journée. À bientôt pour de nouvelles discussions. Alors les trottoirs. Une exclusivité pour les piétons, oui ou non, bonne idée ou non. On va voir, on en a parlé pendant 10 minutes.
Voilà.
Oui,
mais c'est du bon sens. Mais
oui,
on est d'accord avec ça.
90%.
Dire qu'il n'y avait pas de problème.
Non.
Mais il n'y a
pas
de problème. Vous êtes des anarchistes. Vous voulez que ce soit n'importe quoi partout, consigné, je
mais
te connais.
Mais c'est ça, Paris.
Je connais ton passé.
Allez, Coupe du Monde, Cameroun-Serbie, Arnaud Souk, s'il vous plaît, où en est-on dans le match ?
Toujours 0-0 dans cette rencontre entre le Cameroun et la Serbie. 17 minutes de jeu au stade Al-Janoub. Ça chauffe sur la cage camerounaise. Un poteau il y a quelques minutes, signé Aleksandar Mitrovic, qui a profité à l'instant également d'un nouveau cafouillage dans la surface de réparation camerounaise pour reprendre le ballon d'une frappe qui est passée au ras du poteau de la cage du gardien camerounais. Toujours 0-0, mais les Serbes qui dominent largement cette rencontre, on le rappelle, malheur aux vaincus.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, ça continue, c'est en direct, c'est tous les jours, c'est avec vous de 9h à midi. Nos GG aujourd'hui, Charles Consigny, avocat, Étienne Liebig, éducateur, et Barbara Lefebvre, enseignante. C'est l'heure du GG 7 et match, on a deux équipes qui vont être face à face.
RMC,
GG 7 et match.
C'est qui, c'est Tino Rossi,
ouais,
ça?
Ouais, c'est Tino Rossi, non?
Avec Ila Yassin, petit papa Noël. Alors, chaque année, on vend 6,5 millions de sapins.
J'ai interdit la chanson.
6 qui sont naturels. Et plus... on avance depuis quelques années, plus on dit non. Attention, prenez le plus écologique. Alors, lequel est le plus écologique ? 80%, c'est le sapin de Noël naturel. 20%, c'est le second, le synthétique. Qui a raison ? Et finalement, est-ce qu'on doit vraiment se poser la question ou simplement laisser faire la tradition et choisir celui que l'on veut ? Alors, la tradition doit-elle être plus forte que l'écologie ? Oui ou non, on a une équipe oui avec Charles et Olivier, une équipe non avec Barbara et Étienne. Barbara, à toi la parole.
Mais la question de ce sujet des traditions pose vraiment question, puisqu'on a vu il y a quelques temps une formidable tribune intitulée tellement sobrement et sans aucune exagération, nos traditions doivent résister à l'éco-totalitarisme. Donc apparemment, se poser la question de l'évolution des normes communes qui sont fondées sur l'évolution des usages publics, qui soient plus respectueux du vivant et plus respectueux des ressources énergétiques, c'est versé dans l'éco-totalitarisme. La question qui se pose effectivement, c'est quel type de sapin ? Je n'oserais même pas partir sur la voie de est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un sapin et est-ce que sans sapin, on ne peut pas fêter Noël ? Bon, mais il y a effectivement des sapins qu'on dit de culture conventionnelle. Je ne sais pas si la convention, c'est d'utiliser des dizaines de pesticides et d'insecticides sur des sapins pour qu'ils poussent plus vite. Quitte à choisir, il vaut mieux du sapin bio qui, effectivement, pousse sans aucun produit qu'on appelle faussement phytosanitaire. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est si vous voulez utiliser un sapin, achetez des sapins bio dans lesquels on n'utilise pas de produits phytosanitaires. Et sinon, il faut effectivement, je suis désolée, mettre fin à cette filière des sapins qui sont les sapins utilisés avec des produits phytosanitaires qui polluent les sols.
Et pas de sapins plastiques non plus.
Les sapins plastiques faits en Chine avec du plastique, non plus. On peut faire des sapins recyclés avec autre chose.
Pas de sapin, toi, Marmara, chez toi ?
Non, maintenant, j'en ai plus de sapin. Mais non, j'en ai pas de sapin. Et alors ? Mais quelle tristesse, de quoi tu peux faire Noël autrement ?
Ah, mais on peut faire plein de choses.
Alors, la réponse.
Et en plus,
Charles Consigny.
Non seulement t'as pas de sapin.
Elle a pas de voix.
Mais je suis sûr que t'as pas de cheminée.
Non, t'en as une, toi ? Bah, c'est pas ça,
à
c'est
la campagne,
suis...
oui.
Excuse-moi, j'ai pas de maison
et
de campagne.
Et t'as des ampoules LED.
Ouais.
Voilà, donc t'as pas de lumière.
Non plus.
Et il y a pas de viande à table.
Non.
Bon, bah autant se suicider tout de suite.
Bah voilà.
Ce que je veux dire, c'est que le Noël chez Barbara, Noël en Corée du Nord. Alors, célébrons. Et qu'est-ce que tu offres à tes enfants? Des trucs recyclés
en bois,
des vêtements de reprise, des vêtements de friperie. Écoute, c'est l'URSS.
Bien sûr.
Moi, j'aime les États-Unis.
On est, voilà.
C'est le bloc de l'Est contre l'Ouest. Excuse-moi, RDA, RFA.
Ok, tu sais quand même.
Je veux des sapins en pleine santé.
D'accord.
Verts. Mais injecter des sapins dopés, si tu veux. Je les veux dopés à tous les produits possibles. Magnifique. Avec des guirlandes de toutes les couleurs, jour et nuit. Je veux que quand les enfants se lèvent au petit matin pour aller chercher leurs innombrables cadeaux, des cadeaux neufs, des cadeaux issus du capitalisme.
Commandés sur Amazon.
Des cadeaux qui leur véhiculent des bonnes valeurs. Le commissariat Playmobil, le jet privé Playmobil. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, commandez bien sûr sur Amazon, parce que sinon, de toute façon, tu n'es pas livré. Ou alors, il faut 15 jours de délai avec la poste. Bon. Voilà, et je veux qu'ils aient guirlandes éclairées de toutes les couleurs.
Dommage.
Et qu'ils fonctionnent toute la journée.
Quand ils arrivent,
mais ce qui est dommage dans la façon dont Charles essaie de ridiculiser le sujet, c'est pas le sapin, c'est pour le coup vraiment l'arbre qui cache la forêt. La question, elle n'est pas là. On est aujourd'hui à 10 tonnes de CO2 par an. Et les experts qui sont des scientifiques, hein, qui ne sont pas des hurluberlus, c'est pas Extinction Rébellion qui a défini ça, c'est des experts de climat qui disent que pour en 2050, il faut qu'on soit à 2 tonnes de CO2.
Oui, mais c'est pas les sapins de Noël qui vont
nous
amener
c'est
là.
Jamais, c'est jamais les sapins, c'est jamais l'élevage intensif, c'est jamais le foie gras, c'est jamais les voitures à diesel.
Les voitures diesel,
en fait,
tout à fait.
Il faut jamais prendre aucune mesure, parce que toute mesure, mais alors, tu comprends,
est-ce qu'on peut te répondre,
vient nous heurter dans notre super petit confort génialissime que vient de nous décrire Charles à l'instant.
Attends, foot.
Donc, excusez-moi.
Foot, s'il vous plaît.
Si on peut passer un mot aussi, ça serait bien.
Cameroun-Serbie, Arnaud Souk.
Avec l'ouverture du score des Camerounais, sur un corner tiré de la gauche vers la droite. C'est le défenseur du FC Nantes, Jean-Charles Castelletto, l'international camerounais, qui reprend au second poteau, plat du pied dans un but vide, puisque le gardien serbe avait été parti aux fraises, on va dire, sur ce coup-là. Ça fait donc 1-0 à la demi-heure de jeu en faveur du Cameroun face à la Serbie.
Le match Cameroun-Serbie est en ce moment en direct et en intégralité sur l'appli RMC avec la radio digitale RMC 100% Coupe du Monde.
Téléchargez l'appli RMC.
Alors, on continue notre discussion.
Oui, non, mais j'aurais donné quelques chiffres. Déjà, près de 80% des sapins naturels qui sont vendus en France sont cultivés en France. C'est mieux que les sapins en plastique qui sont fabriqués en Chine. Je vais terminer. Aujourd'hui, il y a les sapins bio, de plus en plus, c'est Norman, etc. Ah. Parce que tout le monde s'y met. Donc, à mon avis, ça va s'imposer. Et dans peu de temps, on sera à 100% de sapins bio. C'est des sapins qui sont cultivés, parce qu'on dit, mais on les arrache au sol. Pas du tout. Ils sont cultivés sur du sol, dans le Morvan principalement, mais aussi en Franche-Comté. Donc, c'est une véritable filière agricole française.
Une cinquantaine de départements.
Et le sapin de Noël n'entraîne pas de déforestation, contrairement à ce qu'on peut raconter. De toute façon, en général, ceux qui sont anti-sapin, c'est des gens qui ne connaissent pas le sujet. Pas toi, Barbara, mais général, quand je vois sur les réseaux sociaux, etc. Donc, en fait, le sapin, déjà, effectivement, c'est une tradition qui remonte à bien longtemps, parce que c'était pas...
Ça
vient des pays scandinaves.
Ça a été
récupéré comme beaucoup de traditions.
En Alsace, le sapin, c'est arrivé au 12e siècle.
Oui, et c'est le solstice d'hiver et ça remonte entre 2000 et 1900
ans religieux. Non, excuse-moi. Voilà.
L'épicéa, le 24 décembre, c'était.
Ouais, ça n'a rien à voir avec la religion. Alors, on va pas recommencer avec vos histoires de tradition. On va pas recommencer avec l'histoire de tradition.
On peut parler.
Attends, juste une question. Non, mais le sapin, au sens de sapin de Noël, c'est vraiment, on va dire, 18e siècle.
Oui,
et c'est devenu populaire au 19e siècle.
Oui. C'est les Celtes qui ont mis ça en
tradition de 18e siècle.
Je te parle de tradition française. Quand vous m'avez inventé la corrida, tradition française.
C'est une tradition européenne, t'es pas européenne.
La corrida a été introduite en France pour faire plaisir à la femme de Napoléon III en 1853. Avant, il n'y avait jamais eu de corrida.
C'est à partir du 4e siècle.
On peut néanmoins considérer que quand c'est depuis 200 ans, certes, c'est pas une tradition liée à la religion catholique. Certes, c'est pas une tradition très ancienne, mais à partir du moment où ça a 200 ans.
Le premier sapin Noël en Alsace, c'est 1521.
Ça ressemble, oui, parce que ça vient d'Alsace.
1521, c'est pas une tradition.
Ça ressemble quand même à une tradition, on peut le dire. Et d'autant plus que on sait très bien qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle tradition, c'est ce qu'on a vécu dans sa propre enfance. C'est-à-dire qu'on, pour tout, comme ça.
Alors,
c'est comme
on
ça.
Pas fini, alors.
C'est comme ça pour tout. C'est-à-dire.
Alors, l'île aux enfants, c'est une tradition.
Non, mais c'est comme
parce
ça.
Parce que j'ai connu Casimir.
Non, mais c'est comme ça pour tout. C'est-à-dire, on considère que c'est une tradition à partir du moment où ça nous rappelle notre propre enfance. C'est une absurdité anthropologique, mais c'est comme ça. Donc,
enfin, moi, 1521, je pense que c'est pas ton enfance.
Non, simplement, je voudrais dire que il me semble que pour le sapin, comme pour des tas d'autres choses, on doit se poser des questions de façon individuelle. Moi, je suis pas pour dire on va interdire, on va.
Exactement.
Il faut se poser la question individuelle, chacun en fonction de où on en est, de son évolution personnelle par rapport à la pensée sur la planète, par rapport aux pensées générales. Et moi, je comprends tout à fait le fait de dire moi, je suis pas prêt à sacrifier une imagerie populaire, une imagerie de mon enfance pour mes propres enfants. Et donc, je considère que j'ai besoin du sapin pour symboliser cette période forte. Comme les Américains ont besoin des chorales dans la rue pour le symboliser, etc. Et d'autres vont dire bon bah moi je pense que ça ne passe pas obligatoirement par là.
Voilà.
Et automatiquement, puisqu'on voit bien qu'on est en train de, que la société est en mouvement, je pense que dans les 2-3 générations qui viendront, pour cela comme pour beaucoup d'autres choses, les comportements changeront. Et ce qui nous paraît aujourd'hui impossible, c'est-à-dire de dire c'est pas possible d'avoir, de ne pas avoir de sapin, etc. Attends, je voudrais juste terminer sur un truc. Par contre, il y a un point qui est incroyable, c'est que le sapin énorme, gigantesque qu'on met sur les places des mairies, ça n'a aucun lien avec la tradition, ça n'a jamais existé.
C'est sympa, non, c'est
mais
pas sympa.
Mais
non,
mais attends, laisse-moi terminer. Ça passe un pain, mais
non, je sais que le maire de Bordeaux les aime
non,
pas.
Non, attends,
il
je continue.
Ça des arbres morts.
Tu vas par exemple en Espagne puisque tu parlais de Madrid tout à l'heure. Sur Madrid, il y a des sapins partout. Aucun n'est en bois. Aucun n'est un vrai sapin. Ce sont des sapins en verre qui sont décorés pour
et
que les gens.
Faire comme Madrid.
Personne ne, et je pense que c'est une tradition qui n'a pas d'histoire.
Madrid, c'est
non, mais
vous êtes contre les traditions, mais il faut rapporter ce qui se passe à Madrid.
Non, la question, c'est pas là.
Je dis juste que c'est pas une tradition, le gros sapin. Non, bah, autant
écoutez,
à la maison,
écoutez,
il est.
Écoutez,
tu peux dire juste un mot?
Non, écoutez, si ça fait plaisir aux gens.
Mais
si on trouve qu'un sapin, c'est joli dans une ville décorée. Pourquoi
mais
vous emmerdez la vie des
c'est
gens?
C'est exactement ce que je dis,
oh,
non,
mais
non.
Alors,
mais non, Barbara et toi, vous êtes en train de dire ça va disparaître, est-ce qu'il faut que ça disparaisse
parce oui,
que
c'est alors, pas une tradition. Tu veux aussi empêcher en les plus... gens de réfléchir?
Alors attends,
mais
Barbara,
toi, si t'as
Barbara
pas
et puis ensuite on a un point foot,
c'est pourquoi vous emmerdez les gens?
Barbara, on a le point foot ensuite.
Vous nous jugez comme si on était, nous, dans une position de supériorité morale. On n'est pas en train de vous dire, mais non, je ne suis pas en train de dire, il y a des gens qui sont bien parce qu'ils n'ont pas de sapin et des gens qui sont mauvais parce qu'ils ont des sapins. La question n'est pas là. Le rôle de l'écologie, quand on est dans une situation et on est tous d'accord autour de ce plateau pour dire qu'on a un vrai problème.
Pas avec les sapins.
On est aujourd'hui, depuis 5 mois, on a dépassé les capacités de production de ce que la Terre peut fournir. D'accord, le jour de dépassement, c'était le 28 juillet. Donc on est d'accord, il y a un problème écologique à régler. Le rôle des écologistes, les vrais, pas les dingos qui te disent « ma supériorité morale, c'est de pas faire du barbecue ». Les vrais écologistes, leur rôle, c'est d'essayer d'expliquer aux gens, de les faire sortir de ce qu'on appelle l'ignorance sincère. Mmh. C'est-à-dire le fait que tu sois, voilà, que tu aies de la bonne volonté, tu as de la bonne volonté, je
donc
voudrais...
Les écolos, vous avez la raison. Les écolos savent et les autres sont ignorants. C'est exactement ce que tu viens de dire. Tu te contredis dans ta propre phrase.
Tu n'écoutes pas ce que c'est l'ignorance sincère, on en est tous victimes.
Sincère.
Pendant des années, tu as fumé, mais l'industrie du tabac t'expliquait... de maintenir dans ce qu'on appelle l'ignorance sincère. Tu savais que fumer, c'était peut-être pas très bon, mais grâce à la pub, grâce à tout, on te rendait ça glamour et tu vivais dans l'ignorance sincère.
Non, c'est parce que les médecins ont démontré que c'était mauvais pour la santé.
À partir d'un moment, la voix des scientifiques, la voix des médecins a été plus entendue que la voix des lobbies du tabac. Aujourd'hui, l'élevage intensif, si je te prends les poulets, tu continues à bouffer...
C'est quoi l'élevage intensif? Pourquoi? C'est quoi
98% des poules que tu bouffes en France, c'est des poules en cage.
C'est quoi l'élevage intensif?
Quand tu vois aujourd'hui, pendant la Coupe du Monde, la pub KFC qui te fait croire que la poule, elle gambade dans l'herbe, elle te fait maintenir dans l'ignorance sincère. C'est-à-dire que toi, intuitivement, tu veux manger sainement, mais la dissonance dans laquelle on te place par l'industrie les industries de la volaille. Non, mais c'est pour t'expliquer. Les écologistes,
c'est la même chose.
Les vrais écologistes, ils t'expliquent essayer de t'ouvrir les yeux. Mais tu veux pas les ouvrir, il y a pas de problème.
Pourquoi élever des sapins, c'est mauvais pour la planète?
Parce que les sapins.
Parce qu'on met des produits phytosanitaires.
Parce que tu mets des produits phytosanitaires.
Et si tu n'en mets pas.
Le sapin bio, il n'y a pas de problème. Le résultat de la consultation, tout du moins la mi-temps. Est-ce que c'est l'équipe qui l'emporte? Est-ce que c'est l'équipe non? La tradition plus forte que l'écologie. Mais d'abord, le foot, Cameroun-Serbie. Arnaud Souk, où en est-on?
37 minutes de jeu au stade Al-Janoub d'Al-Wakra et 1-0 pour les Camerounais. Un but inscrit à la demi-heure de jeu par Jean-Charles Castelletto, et ce, malgré donc les nombreuses occasions pour les Serbes. 1-0, encore 8 minutes à jouer dans cette première mi-temps.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC et RMC Story. On va regarder la consultation. Où en est-on dans cette question de civilisation cruciale pour notre pays? La tradition plus forte que l'écologie pour le sapin de Noël, oui ou non? Ou c'est l'écologie qui doit l'emporter, la tradition qui doit l'emporter? Attention.
Sapine.
90.
Le mot qu'on puisse dire, c'est que c'est plié.
Le match est plié.
Ça sent le sapin pour Barbara Etienne.
90-10. On a Benoît qui nous appelle, qui est producteur de sapin. Il nous appelle de la Somme. Bonjour Benoît.
Bien. Bonjour à vous.
Alors, Benoît, rétablissons quelques vérités. Alors, est-ce qu'effectivement aujourd'hui,
on n'a pas menti,
avoir des sapins, c'est pas écologique?
Alors, c'est moi, déjà, d'une part, nous, ça fait plus de 30 ans qu'on fait des sapins Noël, et donc ça reste traditionnel. Pourquoi? Parce que mon grand-père faisait ça, mon père fait ça, et moi j'ai appris un petit peu le flambeau. Et donc déjà, d'une part, c'est traditionnel. Et ensuite, au niveau écologique, c'est hyper écolo de couper un sapin et de le replanter. Il n'y a aucun souci par rapport à ça.
Vous utilisez quoi comme produit phytosanitaire, Benoît?
Nous, c'est du sapin bio. Ça veut dire qu'on ne traite pas du tout le sapin. On ne traite pas du tout le sapin. Il pousse, l'entretient, bien sûr, on l'entretient. Et on le vend à la porte.
Vous le vendez préférentiellement en pot, puisque vous dites parce que ça c'est bien quand on peut le replanter, c'est au poil.
Alors ça, on le fait clairement, mais très peu, pour tout vous dire, en toute transparence. Mais après, c'est vrai que la plupart des personnes maintenant ont le sapin traditionnel normand qui garde les épines. Et donc, on n'a pas réellement un besoin de le replanter par la suite.
Alors déjà, donc, moi je tiens à préciser. Benoît, producteur de sapins bio. Moi, je vous ai bien parlé des problématiques d'utilisation de phytosanitaires. Maintenant, Benoît, la production de sapins bio, même si elle progresse en France, elle représente combien sur la totalité des 6 millions de sapins vendus chaque année?
Alors ça, je vais être clair avec vous, ça, j'ai pas les chiffres, je connais pas les chiffres. Après, l'idée aussi, c'est de garder notre tradition.
On est à peine à 10-15%. Voilà. Okay,
ça coûte combien un sapin bio par rapport à un sapin traditionnel? Quelle est la différence de prix?
Après, il y a différents types de
Est-ce que c'est plus cher d'acheter un sapin bio?
Bah oui.
Alors nous, clairement, sur une tarification, peut-être qu'en grande surface, c'est plus cher. Après, on est des petits producteurs. On n'est pas les grandes enseignes. On ne fait pas venir des sapins de l'Est.
Voilà.
C'est nous qui les plantons.
Et majoritairement, les sapins sont produits en France, Barbara.
On les replante. Mais je sais.
Et ça, c'est le plus important.
Alors, majoritairement, les sapins
Benoît,
vendus
Benoît,
en France.
Benoît,
il n'y a pas de problème.
Deux secondes, pause.
Le problème, c'est les produits.
Cameroun-Serbie, s'il vous plaît, Arnaud Souk.
Égalisation de la Serbie, égalisation de Pavlovic qui reprend un ballon de la tête au point de pénalty après un coup franc tiré par l'un de ses coéquipiers. Ça fait un partout dans cette rencontre. On est dans les arrêts de jeu de la première période.
Le match Cameroun-Serbie est en ce moment en direct et en intégralité sur l'appli RMC avec la radio digitale RMC 100% Coupe du Monde.
Téléchargez l'appli RMC.
Voilà, on revient à notre discussion après ce point. Benoît, vous dites les grandes surfaces pour venir les sapins de quel endroit?
Bah, c'est pareil. La plupart du temps, pour d'une question de quantité et pour une question de commerce, les grandes surfaces font venir les sapins de plus de l'Est en grande partie parce que ça a un coût de revient beaucoup moins cher et forcément on peut fournir une grande quantité de sapins aux grandes enseignes
Mais les chiffres démontrent l'inverse quand même. Majoritairement, les sapins vendus en France sont produits en France. C'est assez minoritaire ceux qui viennent de l'étranger.
Pourquoi, Benoît, vous avez choisi de produire du sapin bio et pas du sapin dit, je mets beaucoup de guillemets, parce que le conventionnel, c'est un mot insupportable.
Sapin bio ou pas, ça reste sapin traditionnel. C'est-à-dire que nous, d'année en année, on plante les sapins. Plante les sapins, on les traite. En aucun cas, on traite les sapins et on les entretient déjà à la main. Et donc ça reste, on pollue pas la planète.
Eh ben voilà. Ce sapin-là, il me gêne pas.
Benoît, ça se passe dans la Somme, là, c'est ça.
Bordeaux. Comment ?
Ça se passe dans la Somme. Vous faites ça dans la Somme, c'est ça ?
Oui, exactement. Un petit village à côté d'Amiens.
C'est le gros sapin au milieu de la ville.
Et vous avez combien d'hectares et vous faites combien de sapins ? Vous cultivez combien de sapins ?
C'est très peu. Je vais pas vous. Enfin, les chiffres, c'est plus mon père qui connaît exactement l'intégralité des champs, des hectares et des sapins.
Les prix ont augmenté cette année ou pas ?
Les prix ont augmenté un tout petit peu. Mais partout, tout augmente. D'ailleurs, voilà, c'est plus... Nous, pour tout vous dire, on a augmenté, mais très peu sur 4 ans, on a augmenté de 1 euro. Alors, c'est pas quelque chose... Nous, l'idée, c'est de garder notre clientèle qui est de plus en plus fidèle.
Et qui est local surtout, quoi, en fait.
Qui est local, et ça, on prône le local, parce que c'est hyper important de garder nos traditions et que les personnes consomment du local.
Il n'y a pas de problème, Benoît.
Merci, Benoît. Non. But la pour question. La Serbie, le foot, s'il vous plaît, Arnaud Souk.
Encore un but pour les Serbes, effectivement, qui sont en train de retourner cette rencontre. Le but, il est signé Sergei Milinkovic-Savic, l'attaquant de la Lazio Rome, qui reprend un ballon qui traînait à l'entrée de la surface de réparation. Frappe du plat du pied gauche qui trompe le gardien camerounais qui vient donc d'encaisser 2 buts en l'espace de quelques minutes. 2-1 pour la Serbie.
Le match Cameroun-Serbie est en ce moment en direct et en intégralité sur l'appli RMC avec la radio digitale RMC 100% Coupe du Monde.
Téléchargez l'appli RMC.
Et à l'instant, juste avant, Étienne disait, ça m'étonnerait pas que Milinkovic mette un but. Et Barbara disait, ça serait pour être à plat du pied gauche.
Par contre, pour être honnête, j'ai dit de la tête plutôt, parce que je sais que c'est un très grand joueur de tête.
Toi, tu nous parlais de Volvic, et d'un très bon joueur serbe aussi.
Serbe aussi. Je remercie Benoît d'avoir été avec nous. Comment ?
Un beau pays, la Serbie.
Oui, puis que des gens sympas.
Ouvert.
Une gastronomie
tolérante.
Une gastronomie
délicieuse.
Bon, revenons sur nos sapins.
Nadine, bonjour Nadine de la Nièvre.
Bonjour. Bonjour à tous. Ravie de vous avoir. En fait, j'ai découvert l'émission par rapport au Covid. Mm-hmm. Et du coup, maintenant que je suis en grande vacances à vie, du coup, je continue.
Pourquoi vous dites en grande vacances à vie ? Parce que vous êtes retraitée, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Oui.
Retraitée de quel secteur d'activité ?
Oh, j'ai été monitrice éducatrice et j'ai terminé à ESH.
D'accord. Un repos bien mérité, j'imagine.
Ah oui, il fait froid dans la Nièvre, hein ?
Beaucoup moins qu'avant, justement, par rapport à la situation.
Moi, j'ai souvenir d'hiver terrible dans le Morvan.
Maintenant, il fait chaud. Ah,
mais ça, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui,
il est pas nié. Heureusement qu'il y a le réchauffement, d'ailleurs.
Qui fait froid.
Ouais, revenons au sapin.
Alors, justement, tradition ou écologie, qu'est-ce que vous dites, Nadine ?
Moi, je suis un petit peu entre les deux. En fait, je trouve que les écolos, faut faire attention. Des fois, ça va un peu trop loin et ça remonte un peu les gens contre les écolos. Mais j'ai le même problème en tant que végétarienne où certains végétariens vont en faire trop et du coup, c'est un peu la guerre. Il faut arriver à trouver un juste milieu. Et le gros souci, c'est la déforestation, en fait, ici. Ils arrachent des hectares et des hectares et des hectares de feuillus, mais c'est ça le gros problème.
C'est vrai.
Et qui est-ce qui les arrache ?
Les exploitants.
Les exploitants pour faire du sapin.
C'est les entreprises qui vendent les sapins. Mais il y a des particuliers, ils vont vendre leur petit bout de terrain parce qu'ils ne vont rien en faire. Donc, en fait, après, c'est le regroupement des parcelles et on déforeste à fond la gomme, quoi.
Pour planter du sapin.
Enfin, on déforeste pour faire une forêt de sapin.
Voilà. Et pour planter du sapin pas bio, c'est-à-dire avec du phytosanitaire.
Voilà. Alors, certes, il traite un petit peu moins, mais Mais malgré tout, c'est surtout la déforestation, parce que force de mettre des sapins en permanence, même s'ils font tourner les productions.
On l'a payé cher cet été, Nadine.
Tellement qu'il faut remettre du produit.
Oui, c'est
quoi.
Ça. Oui, ouais.
Voilà. Nadine, on l'a payé cher cet été, la monoculture des pins, hein, puisque là où ça a cramé, c'était entièrement ça. Et en fait, le fait qu'il n'y ait plus de feuillus, parce que c'est une, pas seulement pour les sapins, mais aussi pour le meuble, c'est les épicéas qui remportent tout. Le fait qu'il n'y ait plus de feuillus fait que notre, il y a toujours autant d'arbres, mais c'est plus les mêmes. Et c'est tout s'est transformé.
Et vous voyez que le problème à chaque fois, c'est qu'il faut une catastrophe ou une situation extrême pour qu'on commence à s'en rendre compte. Non, mais le problème, il est là. Et sur les questions, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'ignorance sincère. Parce que les sapins, bien sûr que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est pas la question du sapin qui est le plus producteur de CO2. C'est l'élevage intensif. L'élevage intensif, c'est bien là qu'on vous maintient dans l'ignorance sincère pour continuer à vous expliquer le foie gras, la volaille, etc. Alors que c'est là que vous avez les plus grosses exploitations et productions de CO2 notamment.
Merci à Nadine de la Nièvre d'avoir témoigné. Les amis, on va regarder le résultat final, sapin de Noël. Qu'est-ce qui doit être plus fort ? La tradition, l'écologie, c'est la tradition 89.
Donc voilà, 111%. C'est un message envoyé à tous ceux qui veulent interdire.
Un dernier petit tour provisoire par le Cameroun, Serbie, Arnaud Souk.
C'est la mi-temps au stade Al-Janoub et la Serbie qui mène 2-1 face au Cameroun. La Serbie qui a retourné le scénario puisque Jean-Charles Castelletto avait ouvert la marque en faveur des Lions indomptables à la demi-heure de jeu. Mais deux buts en l'espace de 2 minutes signés Pavlovic et Milinkovic-Savic permettent donc à la Serbie de regagner le vestiaire avec cet avantage de 2-1.
Le match Cameroun-Serbie est en ce moment en direct et en intégralité sur l'appli RMC avec la radio digitale RMC 100% Coupe du Monde.
Téléchargez l'appli RMC.
Dans un instant, le débat continue sur RMC, RMC Story. Ce sera avec Estelle Denis et toute sa bande. Bonjour Estelle.
Salut Alain, salut les GG. Petite question, tiens Alain, est-ce que vous êtes pote avec vos voisins ?
Pas celui du frigo.
Je le connais pas, non.
Parce que c'est qu'il y a
pas un WhatsApp des voisins. Si à Nice, oui, à Paris.
Voilà.
Pas
nous, on a un WhatsApp des voisins. Ils échangent sur WhatsApp. Ils ont des groupes WhatsApp avec leurs voisins.
C'est génial.
Est-ce que c'est nécessaire d'avoir de bonnes relations avec ses voisins, justement?
Oui,
comment vous entendez avec vos voisins? Appelez-nous, témoignez au 3216. On parlera également, ça sera à 14h. 13h, 1500 foyers privés de chauffage et d'eau chaude à cause d'une grève de...
GRDF. La CGT.
Chez GRDF. Est-ce que ça vous choque, justement, que les Français soient privés de chauffage à cause d'une grève? Et puis enfin, Emmanuel Macron qui veut lancer des RER dans 10 grandes villes de France. Bonne ou mauvaise idée? On vous attend au 32-16.
Il est sur sa planète, Emmanuel Macron.
Et rendez-vous demain, nous, 9h, coup d'envoi des GG. Bonne journée, bon débat avec Estelle.